Merci Olivier. Bien, juste un petit mot avant de commencer, puisque ça ne marche pas là. Oui, peut-être que je suis trop loin du micro.
Oui, là c'est bon, je vais le prendre.
Merci.
Bien, oui, alors bonjour. Je vais profiter juste avant de commencer pour insister là, sur la présence ici de Météo et Climat, la Société météorologique de France, qui a pour objectif de sensibiliser et de faire connaître la météorologie et les problèmes de la météorologie du climat. Donc vous avez à l'entrée un certain nombre de documents. Je pense que les documents sont gratuits, hein, que vous pouvez prendre. Ce sont les publications de la société, hein, de la météorologie, qui sont des publications scientifiques. Et puis vous avez aussi un certain nombre de prospectus d'inscription. Enfin, donc en sortant, vous pourrez éventuellement regarder cela. Bon, alors pour revenir à notre sujet, peut-on faire la pluie et le beau temps? Alors, bon, nous avons tous entendu parler d'opérations menées un peu partout dans le monde. Hein. Par exemple, je suis sûr que vous avez entendu parler d'opérations qui visaient à empêcher la grêle de tomber, de détruire les récoltes. Pendant les Jeux Olympiques de Pékin, les Chinois, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on en a beaucoup parlé, les Chinois avaient mis des moyens colossaux. Il y avait 40 000 personnes qui étaient à disposition, 40 avions, 4 000 lance-roquettes, 7 000 pièces d'artillerie, juste pour essayer d'empêcher les nuages de venir perturber cette grande fête qui était les Jeux Olympiques. À l'heure actuelle, on peut compter à travers le monde entre 100 et 200 opérations. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est absolument considérable, le nombre d'opérations qui essayent aujourd'hui de modifier le temps. Alors pourquoi? Eh bien, si on regarde d'un peu plus près, bon, les nuages, c'est quelque chose qui est extrêmement poétique, qui orne le ciel, etc. Souvent, enfin, aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais ça peut être aussi extrêmement violent et puis causer des dégâts considérables, que ce soit des crues. Par exemple, on voit ici que des crues qui ont eu lieu dans la région, ça peut être dans le Tarn, il n'y a pas très longtemps, emportant un peu tout sur leur passage. Bon, les pluies à travers le monde sont extrêmement inégalement réparties. On sait qu'il y a des régions, par exemple, comme Arica au Chili, où il n'y a pas eu de pluie pendant 14 ans, donc des régions extrêmement sèches, hein, où les gens manquent d'eau, il y a des tas de populations qui meurent par manque d'eau potable. Et puis, au contraire, des régions où il y a des quantités d'eau extrêmement importantes, type 26 mètres d'eau en un an à Cherrapunji, en Inde, 3,9 mètres d'eau en 3 jours à La Réunion, il y a quelques années, je me souviens plus en quelle année. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, donc les nuages peuvent être extrêmement violents. Hein. Un seul nuage, un cumulonimbus, disons qu'il ferait à peu près une dizaine de kilomètres de diamètre sur une dizaine de kilomètres de haut, peut arriver à fournir jusqu'à 4000 mètres cubes d'eau par seconde, c'est-à-dire autant que le débit d'un fleuve comme le Zambèze. Et puis, les nuages peuvent donner effectivement des crues, mais aussi d'autres phénomènes extrêmement violents comme les éclairs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que un éclair, c'est quelque chose qui, c'est un courant électrique qui a une intensité qui peut atteindre 200 000 ampères avec des températures à l'intérieur qui de l'ordre de 20 000 degrés Celsius. Et par exemple sur le territoire français, on note en moyenne une vingtaine de morts tous les ans et de l'ordre de 20 000 têtes de bétail qui sont donc tuées chaque année. Autre phénomène associé à la grêle, bon, on a l'impression que c'est de la neige, ben non, c'est de la grêle qui est tombée à Toulouse il y a quelques années. Alors si on regarde de plus près, la grêle, on voit que ça peut avoir la taille d'un œuf, d'une balle de golf, mais on a noté, disons que le plus gros grêlon qu'on ait collecté faisait à peu près 20 cm de diamètre, hein, à peu près comme un ballon de handball, et pesait de l'ordre de 900 grammes. Donc vous voyez les dégâts considérables que peut faire un grêlon de cette taille qui tombe à peu près à 150 km/h. Bon, d'autres phénomènes comme les trombes et les tornades. Alors, j'ai un exemple là d'une tornade qui avait touché Aumont en 2008, hein, n'y a pas énormément de tornades en France, mais il y en a quand même quelques-unes. Et si on regarde le cas, vous voyez au centre de la photo, vous voyez une trace qui est pas droite. Et bien, c'est une tornade qui est passée là, donc de l'air qui passait en tournant. Hein, on voit l'effet tourbillonnaire. Et ce que vous pouvez voir, c'est que d'abord, c'est pas très très large. Et puis, au milieu de la photo, vers le haut, enfin, dans les deux tiers haut, vous voyez que ça a traversé une zone d'habitation. Là. Et quand ça est passé dans la zone d'habitation, bien, voilà le résultat. Vous voyez que les dégâts peuvent être considérables, mais bon, pour le cas d'une tornade, c'est quand même des dégâts importants, mais sur de petites dimensions, hein, sur de petites surfaces. Et puis, contrairement par exemple à un cyclone tropical qui peut donner des dégâts sur plusieurs centaines de kilomètres. Puis la tornade a continué, elle est allée traverser ce bois, et puis derrière le bois, il y avait la ville d'Aumont. Donc quand elle est arrivée sur la ville d'Aumont, et bien voilà le type de résultat. On a eu de l'ordre de 4 morts, 70 habitations détruites. Alors si vous regardez en bas à droite, vous voyez par exemple une voiture, vous voyez que même c'est pas simplement des habitations qui n'étaient pas solides, qui ont été détruites, mais même les voitures peuvent être soulevées. Et encore, on n'avait pas une tornade là d'une intensité extrême, hein, comme on peut en avoir quelquefois, et même souvent aux États-Unis. Alors, voilà un duo extrêmement inquiétant, une tornade avec un éclair à côté. Quand vous regardez la tornade, vous voyez que la dimension, c'est quelque chose qui n'est pas extrêmement important. C'est, une tornade, ça fait quelques dizaines à quelques centaines de mètres de diamètre. C'est rarement au-delà d'un kilomètre, mais ça peut faire des dégâts considérables. Par exemple, aux États-Unis, on a typiquement 1500 tornades tous les ans qui font de l'ordre d'un millier de morts. Une centaine de morts en moyenne par an. Et rien qu'en avril, mai 2011, on a eu 500 morts dans les deux mois. Et on avait enregistré une journée en 1925 où en une seule journée, il y a eu plus de 700 morts associés aux tornades. D'après l'Organisation météorologique mondiale, à peu près 90% des catastrophes naturelles ont pour origine un phénomène météorologique, climatique ou hydrologique, et notamment des sécheresses, des inondations ou des cyclones tropicaux. Elles font chaque année près de 1,5 million de victimes et entraînent des pertes économiques évaluées à plus de 900 milliards d'euros. Donc vous voyez l'importance des dégâts associés à ces phénomènes météorologiques et climatiques. Alors, on peut se dire que oui, bon, tout ça, la sécheresse, tout ça, ça concerne surtout les pays en voie de développement et que nous, on est peut-être plus ou moins à l'abri de ce genre de phénomène. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Bon, je vous ai montré des problèmes de tornades qui pouvaient arriver à se développer sur le territoire français ou sur le territoire américain, mais par exemple, parlons de la sécheresse. Il faut savoir que la sécheresse en France, c'est cause des dégâts typiquement de l'ordre de 500 millions d'euros tous les ans. Et une sécheresse très très forte comme celle qu'on a eue en 2003 peut arriver à provoquer des dégâts de l'ordre de 2,8 milliards d'euros. Donc vous voyez que ce sont des dégâts extrêmement importants. On peut penser surtout à l'agriculture, mais les trois quarts des dégâts d'une sécheresse ne sont pas associés à l'agriculture. Les trois quarts des dégâts sont associés aux bâtiments. Justement, lorsque les sols sont extrêmement secs, il y a des glissements de terrain, les bâtiments ont tendance à se fissurer. Donc tout ce qui est architecture. Bon, et puis la sécheresse, il y a effectivement pour les pertes agricoles, mais il y a aussi des incendies dans les fortes sécheresses. Donc ça peut créer des dégâts absolument considérables. Quand on parle d'inondation, bon, ben, la France est loin d'être à l'abri. Quand on se souvient de Maison la Romaine en 92, c'était de l'ordre de 40 morts. Draguignan en 2010, c'était 23 morts. Et il y a presque la moitié des communes françaises qui sont exposées au risque d'inondation aujourd'hui. On a un peu parlé de la grêle. La grêle, c'est typiquement de 5 à 600 millions d'euros de dégâts par an. Et une mauvaise année, ça peut aller jusqu'à 2 milliards d'euros. La foudre, bon, je vous ai déjà dit, typiquement une vingtaine de morts en France tous les ans et de l'ordre de 20 000 têtes de bétail. Et puis, bon, les tornades, enfin, etc. Donc, quand on voit quand on voit tout ça, il n'est pas surprenant que, de toute époque, l'homme ait essayé de lutter contre ces éléments pour essayer d'abriter, de mettre à l'abri sa famille, son bétail, ses cultures, etc. Donc, de tout temps, l'homme a essayé de lutter contre la nature. Et tant que la compréhension des phénomènes lui échappait, il a eu plutôt recours aux dieux. Donc avec prière, incantation, sacrifice, les Incas avaient tendance à sacrifier leurs enfants jusqu'à ce que tombe la pluie. Au 8e siècle, on notait dans les champs des milliers de piquets surmontés de parchemin pour essayer de conjurer le mauvais sort. C'est une pratique qui avait été interdite par Charlemagne. Et puis il y a eu aussi le son des cloches. On a beaucoup utilisé le son des cloches au point qu'au XVIIe siècle, il y avait une prière qui avait été consacrée par le pape pour consacrer les cloches et leur permettre de chasser justement la grêle et le mauvais sort. Et puis, au fur et à mesure que l'homme s'est mis à comprendre les choses, il a osé combattre les éléments, d'abord en tirant des flèches. Donc en tirant des flèches, quand il ne pleuvait pas, il essayait de crever les nuages comme on crèverait des outres pour faire pleuvoir. Et puis il a utilisé le bruit. Alors on peut imaginer qu'au début, il a utilisé le bruit simplement pour faire peur. Hein. L'orage arrive, l'orage gronde et il faut montrer même pas peur, donc je vais crier plus fort que lui. Et puis ensuite, on a enregistré une corrélation. À la suite de batailles, on s'est rendu compte, très tôt en fait, chez les Grecs, on avait noté ça, mais on l'a noté énormément dans les batailles napoléoniennes. Il semblait que chaque fois qu'il y avait une bataille, eh bien, la pluie se mettait à tomber. Donc on s'est dit, le bruit des batailles a tendance à aider la pluie à tomber, à faire précipiter les nuages. Bon, une analyse un peu plus scientifique aujourd'hui montre que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passait. En fait, si vous regardez les batailles napoléoniennes, c'était des batailles qui étaient assez stratégiques, dans lesquelles on déplaçait du matériel extrêmement lourd. Et le matériel lourd, on ne déplaçait pas quand les sols étaient humides. Donc on attendait que ce soit sec, on déplaçait les matériels, on s'installait, on commençait la bataille. Et puis, comme on est dans une région où statistiquement on a une précipitation qui arrive à peu près tous les 5 jours, quand la bataille commençait, la pluie arrivait. Et on en déduisait que le bruit de la bataille avait provoqué la pluie. Bon, c'est... après Benjamin Franklin, on notait dans le paysage européen et français, on notait aussi la présence d'un grand nombre de piquets surmontés d'une tige en laiton pour essayer donc de... On s'est rendu compte que de la foudre, on avait compris l'électricité, etc. Et donc on s'était dit que si on arrivait à décharger les nuages, on allait permettre de les dissiper. Et puis il y a eu aussi pas mal de propositions dans la littérature. Par exemple, chez Jules Verne, on trouve un certain nombre de propositions pour modifier le temps. Par exemple, dans quel livre, mais il proposait de planter énormément d'arbres dans les régions désertiques pour de façon à améliorer l'humidité des sols, ce qui n'était pas forcément une mauvaise idée, simplement il faut en planter beaucoup, beaucoup. Dans un autre ouvrage, il proposait de construire un énorme canon pour modifier l'axe de rotation de la Terre et supprimer les saisons. Alors vous savez qu'on a des saisons parce que l'axe de la Terre est incliné, et imaginez qu'avec le recul d'un canon, on pourrait simplement faire basculer la Terre pour que son axe de rotation devienne perpendiculaire au plan de déplacement, et à ce moment-là, on n'aurait plus de saisons. Ce qui permettrait... alors en fait, il y avait une idée derrière la tête des industriels à l'époque, et c'était de faire fondre la glace des pôles pour essayer de récupérer la richesse des sous-sols dans les régions polaires. Et on est un peu là aujourd'hui quand on a vu un peu les problèmes que ça posait entre les pays qui se trouvent dans ces régions maintenant que la glace des pôles est en train de fondre. chez les Schtroumpfs aussi. Le Schtroumpf bricoleur, il a réussi à inventer la machine à faire la plus beau temps. Bon, il est meilleur que nous, là. Mais... Et alors, c'est super, quoi. Il a une machine, on peut faire la pluie de beau temps. Et puis, il y a quelqu'un, et puis les agriculteurs veulent la pluie pour faire pousser les salades, et puis les autres veulent du soleil, et puis les autres veulent du vent ou pas de vent, etc. Puis à la fin, tout le monde se bat pour essayer d'avoir la pluie, qui la pluie, qui le beau temps, et puis ils finissent par casser la machine, au point que les saisons se mettent à défiler à toute vitesse, et tout à coup, il gèle, 30 secondes après, il y a trop de soleil, etc. Et finalement, ben, c'est quand même le Schtroumpf sage qui réussit à rétablir tout ça. Grâce à l'invention de Benjamin Franklin, il développe un cerf-volant avec un fil conducteur, et puis il arrive à attirer la foudre sur la machine. Donc la foudre détruit la machine, et le temps redevient comme avant. Voilà, quelquefois, ce n'est pas forcément évident que la modification du temps soit quelque chose qui puisse satisfaire tout le monde. Ceci dit, si on arrivait à créer des pluies dans les régions qui sont extrêmement sèches, ça serait quand même pour le bénéfice d'une grande partie de la population. Bien, dans les années 1900, ce qu'on trouve dans les campagnes en France, en Italie et en Autriche surtout, ce sont des canons à grêle. Alors on trouve à ce moment-là de l'ordre de 15 000 canons à grêle qui font du bruit. Bon, et qui sont supposés détruire les grêlons. Alors, on arrive même à faire des expositions de canons à grêle. Par exemple, là, on a l'exposition de Padoue, où le plus gros canon qu'on voit là faisait à peu près 9 mètres de haut et pesait 9 tonnes. Donc, dans ces canons, on avait un explosif qui, lors de l'explosion, il y avait deux verres qui partaient, sous la forme plus ou moins de tors. Et on envisageait que ces tors allaient casser les grêlons en altitude. Alors, ce type de méthode a quand même été abandonné assez vite, bien que, enfin, il a quand même duré quelques années, puisqu'il y a eu quand même quelques dizaines de milliers de canons qui ont été fabriqués. Mais d'une part, on a un peu douté de l'efficacité au bout d'un moment, surtout lorsqu'on s'est rendu compte qu'il y a un canon qui a été rempli de grêle, donc il y a la grêle qui est tombée sur le canon, et ça a servi de collecteur de grêlons. Et puis, surtout, il y a eu énormément de morts, parce que tous ces artificiers amateurs qui mettaient en place les canons, eh bien, il y a eu quand même pas mal d'accidents, et on a fini par interdire ce processus. Alors, beaucoup plus tard, un scientifique suisse a fait une étude pour essayer de voir quelle pouvait être l'efficacité de ce genre de système. Alors, ce qui a été fait, c'est de prendre un grêlon, enfin, on fait un grêlon au bout d'une ficelle, et puis on prend un canon de ce type-là, et on peut imaginer que les grêlons se forment à 3 ou 4 km d'altitude dans le nuage. Donc, on va mettre le grêlon à 3 ou 4 km du canon, on va tirer, et puis on regarde ce qui se passe. Alors, il ne se passe rien. Alors, on le met à 1 km, il ne se passe rien. On met à 500 mètres, il ne se passe rien. On met à 300 mètres, il ne se passe rien. Et quand on arrive devant la bouche du canon, effectivement, le grêlon est un peu fissuré. Ce qui prouve que la méthode marche, mais à condition d'aller attaquer chaque grêlon indépendamment dans le nuage. Bon, et encore, il n'est pas du tout évident que ce soit le bruit qui est fendu le grêlon. Il est plus probable que ce sont les résidus de poudre. Bien, ceci dit, bien que ce type de méthode ait été abandonné à cette époque, il a été remis en vigueur. Aujourd'hui, il y a encore des fabricants de canons. Il y a encore des gens qui vendent des canons à grêle. Bon. Après les canons à grêle, il y a d'autres méthodes qui ont été développées, puisque c'était assez difficile de... On se rendait compte que émettre un bruit à 3 km des grêlons, c'était pas très très efficace. On s'est dit, on va rapprocher le bruit de la proximité des grêlons. Donc on s'est mis à utiliser soit des montgolfières, des ballons-sondes, des fusées. Et en particulier, il y a un général, général Rubis, qui s'est illustré dans les années 30 à 60, en mettant au point un certain nombre de méthodes. Alors, il se voulait à la fois opérateur, mais aussi scientifique. Donc, il envoyait des fusées dans les nuages pour casser les grêlons. Et puis, comme il s'était rendu compte, en fait, que ces fusées n'allaient pas plus d'un kilomètre d'altitude, alors qu'en principe, je ne veux pas trop commenter la figure qui est là, mais en principe, si vous voulez, les grêlons se forment à un niveau où la température est négative, hein, il faut que l'eau se gèle, donc ça veut dire que dans un nuage, le grêlon se forme au-dessus de, un nuage comme ça, au-dessus de 3 km, il y a un petit problème, alors que ces fusées n'atteignaient pas un kilomètre. Alors, il a inventé carrément une nouvelle théorie scientifique qui était adaptée à son opération, à sa pratique. Il a imaginé que les courants qui étaient dans le nuage, par frottement entre l'air ascendant et l'air subsidant, devaient refroidir l'air du nuage et que finalement les grêlons ne se formaient pas à l'altitude à laquelle on les connaît, mais devaient se former beaucoup plus bas. Comme quoi, quelquefois, les charlatans ne connaissent aucune limite pour essayer de démontrer aux gogos que leurs méthodes fonctionnent, même si elles sont totalement inadaptées aux connaissances scientifiques actuelles. Bon, parfois, on a quand même su observer et copier la nature. Ainsi, dans les régions côtières, par exemple, on s'était rendu compte qu'un arbre qui s'appelle le garroué, hein, ou arbre-fontaine, était capable de capter l'eau des brouillards. Donc on s'était rendu compte, il y a assez longtemps, qu'autour de cet arbre, la végétation, même si c'était très très sec dans les environs, la végétation pouvait pousser, parce que l'arbre, justement, récupérait l'eau des brouillards, et même quand il n'y avait pas de pluie, eh bien, cette eau pouvait arroser les environs, et quelquefois les hommes en ont un peu profité. Donc en copiant ce type de méthode, aujourd'hui, un certain nombre de villages côtiers du Chili sont capables de récupérer une dizaine de milliers de litres d'eau tous les jours grâce à la présence d'une cinquantaine de filets sont des filets qui font à peu près 50 mètres carrés. Et lorsque vous avez du brouillard, eh bien, les mailles fines du filet peuvent récolter les petites gouttes de brouillard, et donc ces gouttes s'écoulent et on arrive à récupérer de l'eau. Donc là, on a une méthode de récupération de l'eau des brouillards qui fonctionne. Alors, si maintenant on essaye de... Je vous ai beaucoup parlé du passé, si on se rapproche un peu des méthodes actuelles, il faut voir que les fondements des méthodes actuelles de modification artificielle du temps sont basés essentiellement sur quatre observations qui ont été faites dans les années 1875-1911. Donc, la première observation qui a été faite, c'est pourquoi les nuages ne précipitent pas, essentiellement parce que les nuages sont formés, enfin ceux qui ne précipitent pas en tout cas, sont formés d'une multitude de gouttelettes ou de cristaux de glace qui sont extrêmement petits, si petits qu'ils n'arrivent pas à tomber, et dès qu'ils sortent du nuage, ils vont s'évaporer, ils tombent très très loin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une gouttelette de nuage, typiquement, ça mesure à peu près 20 microns. Alors 20 microns, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'il faut en mettre 50 gouttes côte à côte pour faire un millimètre. Donc vous voyez que c'est extrêmement petit, c'est minuscule. Et ces gouttes-là, lorsqu'elles sortent du nuage, elles s'évaporent tout de suite dès qu'elles sont dans un milieu qui est sous-saturé à l'extérieur du nuage. Donc, la première question qu'on peut se poser à partir de là, c'est comment est-ce qu'on pourrait collecter ces gouttes, ces toutes petites gouttes dans le nuage? Est-ce qu'on peut les récupérer comme le font les filets là, des villages côtiers? Ou est-ce qu'on peut réussir par une méthode ou une autre à les faire grossir? Donc ça, c'est la première question qu'on peut se poser à la suite de cette observation. La deuxième observation intéressante, importante, c'est qu'on s'est rendu compte que les gouttes d'eau ne se forment pas, les gouttes d'eau dans les nuages ne se forment pas toutes seules à partir des molécules de vapeur d'eau. Il faut un support. Hein, il ne suffit pas d'avoir des molécules de vapeur d'eau qui se mettent ensemble pour faire une goutte, qu'on appelle ça bon, la condensation. En fait, la condensation se fait sur des poussières ou des aérosols qui sont en suspension dans l'air. Donc ça, c'est extrêmement important. Et on voit que, tous les nuages qui se forment ne vont pas avoir les mêmes caractéristiques. Par exemple, un nuage qui se forme au-dessus d'une zone maritime va avoir la caractéristique des poussières qui se trouvent au-dessus de l'océan. Un nuage qui se forme dans une zone polluée va avoir la caractéristique des poussières, enfin, par exemple le nombre de gouttes qui un nombre de gouttes qui correspond à la quantité de poussière qui se trouvait dans cette zone polluée. Et alors, contrairement à ce qu'on peut penser, les zones, en général, si vous, si vous regardez ce qui se passe, dans les zones maritimes, vous avez beaucoup moins de poussière que dans les zones polluées. Donc, dans les zones maritimes, vous allez avoir beaucoup moins de gouttes dans les nuages que dans les zones polluées. Alors, on pourrait penser que dans les zones polluées, il pleut plus facilement. Ce n'est pas du tout le cas. Il va pleuvoir plus facilement dans les zones peu polluées. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de gouttes qui se forment. Et comme au loto, moins on est nombreux à gagner le gros lot, et bien plus le gros lot est bon. Donc, moins vous avez de gouttes, c'est-à-dire plus elles vont récupérer l'eau, plus chacune va récupérer l'eau, puisque l'eau qu'on peut récupérer est limitée. Enfin, j'espère que j'ai été clair. Bien. Alors, la troisième observation importante, là, ça peut surprendre certains d'entre vous, parce que moi, mon prof de physique m'avait dit que l'eau se congelait à 0 degré Celsius. Ben, non, l'eau liquide ne se congèle pas à 0 degré Celsius, elle se congèle aux alentours de moins 40 degrés Celsius, moins 41. Alors là, vous allez peut-être me dire, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Moi, j'ai bien vu, dehors de chez moi, là, il faisait moins 1, la plaque d'eau était congelée. Hein, c'est pas, donc l'eau, elle congèle. Eh bien, non. Si vous voulez, 0 degré, c'est la température d'équilibre entre l'eau et la glace. C'est la température de fusion de l'eau. Mais par contre, ce n'est pas cette température de congélation. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que lorsque l'eau est liquide, l'organisation des molécules est assez particulière. Et il est assez difficile de rompre cet équilibre pour transformer l'eau en glace. Et l'eau ne va se transformer en glace que s'il y a des supports qui facilitent cette transformation. Donc, par exemple, la plaque qui est dehors de chez vous, il y a plein de poussière, il y a plein de saleté, tout ça. Et les poussières et saleté vont favoriser la transformation, l'organisation moléculaire, le passage de la transformation de l'organisation moléculaire de l'eau liquide vers celui de la glace. Alors que si vous avez une goutte d'eau pure, eh bien, la goutte d'eau pure va avoir beaucoup de mal à trouver elle-même, les molécules vont avoir beaucoup de mal à trouver elles-mêmes la structure de la glace, elles vont rester sous forme liquide jusqu'à une température de l'ordre de moins 40. À moins que dans la goutte, il y ait une poussière particulière. Et en particulier, je pense que vous avez tous plus ou moins entendu dire que dans les opérations de modification du temps, il y a des gens qui envoient de l'iodure d'argent. Ben, pourquoi l'iodure d'argent? Parce que l'iodure d'argent a une structure qui ressemble beaucoup à celle de la glace. Donc vous mettez une molécule de structure d'argent dans une goutte d'eau et les molécules croient que c'est de la glace. C'est un leurre. Et elles s'organisent autour de la molécule d'iodure d'argent sous la forme d'une molécule de glace. Et à ce moment-là, la glace prend. Il y a un récit extrêmement intéressant que je reprends dans mon livre, mais qui vient de Curzio Malaparte, dans Caput, en 1943, c'est l'histoire des chevaux du lac Ladoga. Alors le lac Ladoga, c'est un lac qui se trouve vers le nord de la Russie, et on est dans une situation là où on est en une situation anticyclonique, il n'y a pas de vent depuis assez longtemps, la température est relativement basse, c'est peut-être moins 10 ou moins 20 degrés Celsius, mais tout est calme. Il y a un incendie qui se produit, un troupeau de chevaux sauvages voulant fuir l'incendie traverse le lac d'eau liquide. Et au moment où il traverse le lac d'eau liquide, la glace prend et on retrouve le lendemain tous les chevaux pris dans la glace. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'interprétation qu'en est faite, c'est effectivement que l'eau était restée liquide malgré une température fortement négative, hein, l'eau était peut-être à moins 10 degrés, parce qu'il n'y avait pas d'agitation, parce que toutes les poussières s'étaient déposées au fond, et le fait que les chevaux rentrent là-dedans en agitant l'eau, en rentrant avec de la poussière, bien fait que la glace s'est prise, et quand elle se prend très très vite, c'est-à-dire que le lac va se geler très très vite, et les chevaux sont restés pris. Donc, point important, l'eau liquide... l'eau peut rester liquide jusqu'à des températures de moins 40 degrés Celsius. Et puis le dernier point important, c'est c'est que dans un mélange où coexistent à la fois des gouttelettes liquides et des cristaux de glace, si vous avez quelques cristaux de glace au milieu de gouttelettes d'eau liquide, bien la croissance des cristaux de glace va être extrêmement accélérée. Bon, je ne vais pas trop commenter ça, mais c'est un processus qui est bien connu en météo, un processus appelé de Bergeron. Donc si on arrive dans un nuage, par exemple, où il n'y aurait que des gouttes d'eau liquide, alors que la température est par exemple de moins de 10 degrés Celsius, vous avez un nuage où il n'y a que de l'eau liquide, si vous arrivez à créer quelques cristaux de glace, ces cristaux de glace peuvent avoir une croissance très très rapide, accélérée, au bénéfice des gouttes d'eau qui se trouvent aux alentours. Donc ça, ce sont les quatre points qu'on va essayer d'exploiter, je dis « on », c'est pas moi, qui ont été exploités pour essayer de modifier le temps. Alors, on arrive donc à un certain nombre de concepts qui pourraient, à partir des quatre observations que je viens de vous mentionner, pour essayer de provoquer la pluie, ce qu'on peut faire, c'est, la première chose qu'on pourrait faire, c'est par exemple arroser les nuages avec de grosses gouttes d'eau pour essayer de collecter une partie de l'eau au passage. Alors ça, c'est des opérations qui ont été faites par Hugo Chavez au Venezuela. Alors bon, je suis un peu sceptique là-dessus parce que d'abord, c'est extrêmement difficile d'envoyer, de pulvériser de l'eau à partir d'un avion, le Canadair, ça demande beaucoup de moyens. Et puis en général, quand on veut faire de la pluie, c'est qu'on est dans un climat assez sec. Donc il y a une forte probabilité en plus pour que l'eau que vous envoyez dans le nuage s'évapore avant d'arriver au sol. Donc il y a une forte probabilité que finalement, non seulement vous ne récupériez pas l'eau des nuages, mais qu'en plus vous vous retrouvez avec beaucoup moins d'eau à la fin que ce que vous n'en avez récupéré au départ. Donc je pense pas. Enfin, c'est pas une méthode en dehors de Hugo Chavez, la Venezuela, c'est pas une méthode qui a réellement été exploitée par ailleurs. Hein, c'est pas. Alors, une autre méthode qui a été beaucoup plus exploitée, en particulier, les premières opérations avaient commencé en 1938 aux États-Unis, c'est de se dire, si on injectait dans le nuage des poussières qui ont une forte affinité pour l'eau, eh bien, peut-être que ces poussières vont réussir à former de grosses gouttes d'eau en profitant de l'eau des gouttes qui se trouvent autour. Alors, les poussières qui ont une forte affinité pour l'eau, vous en connaissez hein, tous, vous en avez tous chez vous. Vous avez tous expérimenté le fait que quand vous vouliez prendre du sel, quelquefois la salière est complètement bouchée. Pourquoi ? Parce que le sel, qui est un sel de chlorure de sodium, eh bien, a une forte affinité pour l'eau, il a tendance à pomper l'eau, même la vapeur d'eau. Donc, on a fait pas mal d'opérations en essayant d'envoyer du sel dans l'eau pour essayer de faire grossir certaines gouttes en espérant qu'ensuite elles allaient réussir à tomber sur le sol. Une autre opération qui a été menée, c'est d'essayer de forcer la congélation de certaines gouttes pour créer un milieu où coexistent à la fois les gouttelettes et les cristaux. Un milieu favorable à une croissance rapide, ce que je vous dis tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, je dis, s'il y a à la fois des gouttes et des cristaux, les cristaux peuvent grossir très très vite. Donc, ce type d'opération, eh bien, il y a pas mal de matériaux qui ont été utilisés, des matériaux réfrigérants, c'est-à-dire qu'on a par exemple utilisé de la neige carbonique. Pourquoi de la neige carbonique ? La neige carbonique se sublime à une température de l'ordre de moins 78 degrés Celsius. Donc, quand vous utilisez de la neige carbonique, il faut faire attention, par exemple, vous savez, c'est dans les extincteurs, souvent il y a de la neige carbonique, alors quelquefois il y a des gens qui jouent avec, elle sont envoyées. Quand elle sort, il y a moins 78 degrés Celsius, donc c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Donc envoyer de la neige carbonique dans les nuages pour essayer de congeler une partie des gouttes. On a aussi utilisé du propane liquide, où la température d'ébullition est de l'ordre de moins 42 degrés Celsius, ou même de l'azote liquide avec une température d'ébullition de l'ordre de moins 196. Et puis enfin, on a utilisé aussi des noyaux d'iodure d'argent, puisque je vous ai dit que les noyaux d'iodure d'argent, quand ils rencontraient une goutte d'eau, eh bien les molécules d'eau prenaient ça pour de la glace et s'alignaient correctement pour faire un cristal de glace. Alors, après ces essais, eh bien, les premiers résultats flagrants qu'on a trouvés, C'est en 1946 aux États-Unis où un avion qui passait au-dessus d'un nuage relativement étendu, en envoyant de la neige carbonique, a réussi à créer une légère modification du nuage. Donc vous voyez la traînée de l'avion avec une chute de cristaux de glace sous le nuage. Alors, ça n'a pas permis de provoquer la pluie, ça n'a pas créé énormément d'eau au niveau du sol, mais c'était la première fois que l'homme montrait qu'il était capable d'agir sur ce type de phénomène. Et à partir de là, donc, les esprits se sont emballés, on s'est dit, si on est capable de faire ça, de modifier les nuages, on doit pouvoir dissiper les brouillards, on doit pouvoir dissiper les nuages, on doit pouvoir faire tomber la pluie, la neige, on doit pouvoir réduire la grêle, on doit pouvoir détourner les cyclones. Donc à partir de là, de cette opération, il y a des centaines d'opérations qui se sont développées à travers, des milliers, je dirais, d'opérations même, qui se sont développées à travers le monde. Bien, alors, donc si on parle des tentatives, bon, pour déjà les tentatives pour dissiper les brouillards, on a plusieurs types de tentatives, pardon. J'ai déjà parlé de la captation des particules de brouillard par le filet, hein. Bon, on peut aussi noter que quand vous avez du brouillard, vous avez dû remarquer que, par exemple, si vous êtes dans une forêt, il y a beaucoup moins de brouillard qu'à l'extérieur de la forêt, parce que, justement, les arbres ont tendance à capter les particules de brouillard. Donc, on peut aussi mettre des filets, etc., des arbres artificiels pour faire de la captation. Bon, ça se fait sur des zones relativement limitées, mais ça peut se faire. L'autre méthode qui est relativement utilisée, c'est d'essayer d'évaporer le brouillard. Donc, deux méthodes classiques, soit la méthode de mélange. En général, quand vous avez un brouillard, c'est le brouillard a une très faible épaisseur, il est juste au niveau du sol, alors que l'air qui est au-dessus du brouillard est relativement sec. Donc si on essaye de mélanger l'air du brouillard avec l'air qui se trouve au-dessus, on doit pouvoir réussir à évaporer une partie du brouillard. Bon, ça, c'est une méthode qui est connue. Certains agriculteurs ont des ventilateurs pour essayer d'évaporer les brouillards, mais c'est aussi connu par les services de sécurité avec les hélicoptères. Quand vous savez que les hélicoptères de sécurité peuvent atterrir dans des zones, même en plein brouillard, parce que justement le vent des pales peut réussir à dissiper le brouillard sur une petite zone. On peut aussi essayer de réchauffer le brouillard. Donc, pour réchauffer le brouillard, bon, il y a eu un certain nombre d'opérations qui ont été menées. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, en Angleterre, on avait développé un système qui s'appelait FIDO, qui était un système qui brûlait à peu près 400 tonnes de fioul par heure pour le long des pistes d'aérodrome, pour permettre aux avions qui étaient partis justement bombarder sur le continent de se poser malgré le brouillard. Donc on avait installé des brûleurs là, le long des pistes. Et la chaleur de ces brûleurs était supposée donc dissiper les brouillards. Alors ça marchait relativement bien, sauf que quelquefois la fumée provoquée par tous ces brûleurs était bien pire au niveau de la visibilité que le brouillard. Donc c'est une méthode qui a été un peu poursuivie aux États-Unis jusqu'en 1949, mais qui a été assez rapidement abandonnée. Une autre méthode qui a été utilisée en particulier en France, c'est le système turboclair qui avait été développé sur les aéroports d'Orly et de Roissy. C'était d'utiliser des réacteurs d'avion au niveau du sol. Donc avec des réacteurs d'avion, on envoyait de l'air chaud. Donc on avait le double effet de ventilation, de mélange et puis de réchauffement. Donc c'est un système qui a été utilisé entre 70 et 76. Et c'est un système qui fonctionnait relativement bien, mais sur de petites zones. Donc ce sont des systèmes qui sont essentiellement utiles dans des zones, comme ce sont des systèmes assez chers, ils ne sont utiles que dans des zones à fort trafic, et donc ce sont les aérodromes, éventuellement les autoroutes. Disons que ce système a rapidement été abandonné à cause de son coût. Et puis, ensuite, on a aussi utilisé un autre système en essayant de faire précipiter les brouillards. Alors, faire précipiter les brouillards, c'est les mêmes méthodes que j'avais préconisées tout à l'heure sur les nuages. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'opérations où on a essayé de, d'ensemencer les nuages avec des particules hygroscopiques, avec des sels, pour essayer de provoquer l'augmentation de taille des gouttes de nuages et les faire précipiter. En particulier, il y a eu pas mal d'opérations, alors aux États-Unis, mais en France, il y a eu des opérations à Brest dans les années 70. Sauf qu'on s'est rendu compte assez vite, quand même, que ce type d'opération, qui était surtout utile pour les aérodromes, était pas très adapté, parce qu'utiliser des particules salines sur des aérodromes, alors qu'il y a énormément de matériaux qui sont de matériaux pour lesquels les sels sont corrosifs, c'était quand même pas très judicieux. Donc on est passé à d'autres méthodes, on est plutôt passé à des méthodes où on a essayé de congeler les gouttes de brouillard. Donc on a utilisé à ce moment-là de la neige carbonique, de l'iodure d'argent, on a aussi utilisé du propane liquide. En particulier à Orly, en 1958, il y a eu pas mal d'opérations avec du propane liquide. Alors c'était des opérations qui étaient plus ou moins efficaces. Et puis un jour, on a constaté aussi un fort carambolage sur l'autoroute, qui est juste en bout de piste. Et on a supposé que le givre qui s'était déposé sur les routes était issu justement des précipitations qu'on avait réussi à provoquer grâce à l'ensemencement des brouillards. Donc quelquefois, ce type d'opération peut présenter des effets secondaires inattendus et pas forcément souhaitables. Alors là, j'ai parlé surtout des brouillards. Donc pour les brouillards, globalement, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que en tout cas pour certains types de brouillards, on est capable d'avoir un effet notable. Bon, c'est pas toujours très très efficace, parce que lorsque vous avez des brouillards qui sont des brouillards advectifs, c'est-à-dire des brouillards qui circulent, eh bien chaque fois que vous avez réussi à dissiper une partie du brouillard, il y a une nouvelle partie qui arrive et qui vient. Donc ça veut dire qu'il faut des quantités de produits absolument astronomiques. Il y a certains types de brouillards qu'on ne sait pas modifier, par exemple les brouillards lorsqu'il fait très très froid. Dans tous les cas, les effets secondaires sont quelquefois non souhaitables. Et puis surtout, ce sont toujours des méthodes qui coûtent extrêmement cher. Donc ils n'étaient utilisables que sur les aérodromes pratiquement. Mais depuis qu'on a des systèmes d'atterrissage tout temps, l'intérêt de se développer ce type de méthode est relativement tombé. Donc aujourd'hui, à part dans quelques pays comme la Chine ou la Russie, il n'y a plus beaucoup de pays qui utilisent ce type de méthode. Alors si maintenant on sort des brouillards et qu'on veut faire tomber la pluie, la neige, réduire la grêle, etc., détourner les cyclones, on ne peut plus vraiment utiliser le type de méthode, parce que les brouillards, c'est facile, c'est sur le sol, là, on peut directement agir. Là, il va falloir aller jusque dans les nuages. Alors comment est-ce qu'on atteint les nuages ? Il y a beaucoup de 50 méthodes qui ont été utilisées. Là, vous avez un exemple. C'est les Chinois, hein, par exemple, mais c'était pareil, par exemple, en URSS ou en Russie. L'artillerie, les lance-roquettes, les fusées. On peut aussi ensemencer les nuages avec des avions. Vous avez ici un exemple d'un avion, donc sous les ailes, vous avez des systèmes d'ensemencement, on le voit mieux sur celui-là. Ça, par exemple, c'est un brûleur de l'iodure d'argent sur un Cessna. L'intérêt de l'iodure d'argent, c'est qu'à partir d'un seul gramme de l'iodure d'argent, on peut faire plusieurs milliards de petites particules, donc qui peuvent ensemencer plusieurs millions, plusieurs milliards de gouttes. Vous avez aussi des systèmes avec des torches qui envoient des sels, hein, des sels de sodium, magnésium, etc. En France, on utilise beaucoup sont utilisés dans beaucoup de régions les brûleurs au sol. Alors j'ai flouté un peu, je n'ai pas forcément autorisé à utiliser ce type de schéma, je ne sais pas d'ailleurs où il vient. Et donc le brûleur au sol, on envoie des fumées d'iodure d'argent en espérant que Ces fumées vont atteindre les nuages, puis vont pouvoir modifier les choses à l'intérieur des nuages. Il y a encore des canons à graines, ça existe encore, il y a encore des gens qui en fabriquent, il y a même encore des gens qui en achètent. Bon. Alors, un truc qui marche pas mal, c'est le filet anti-graine. Mais oui, bon là, je parlais plutôt de la pluie. Alors, les méthodes qui sont utilisées pour faire tomber la pluie ou la neige, on peut essayer de forcer, enfin les méthodes, les opérations hein, plutôt qui ont été menées, il y en a certaines qui ont essayé de forcer la congélation de certaines gouttes, hein, ce qu'on avait déjà décrit. Alors, par exemple, il y a eu pas mal d'opérations aux États-Unis, en Israël, dans un certain nombre de pays aussi, comme le Vietnam, enfin, des opérations. Il y a ensuite des opérations aussi qui ont essayé simplement d'utiliser l'énergie de congélation des gouttes pour renforcer l'énergie des nuages. Il y a un truc qu'il faut savoir, dont je n'ai pas parlé, mais l'énergie qui se trouve dans la vapeur d'eau est absolument considérable. Quand vous prenez un cumulonimbus tel que celui que je vous ai décrit tout à l'heure, 10 km sur 10 km sur 10 km, l'énergie qui est libérée, par exemple, lors de la condensation, eh bien, représente une, pour les très gros, hein, mais représente une puissance qui peut être équivalente à 200 fois la puissance de l'ensemble des centrales électriques en France. Si on prend maintenant simplement l'énergie associée à la congélation des gouttes, bon, c'est une énergie qui est aussi quelques dizaines de fois la puissance de l'ensemble des centrales énergétiques sur le territoire français. Donc vous voyez que ce sont des énergies considérables. Donc il y a certains projets dans lesquels on essaye de faire congeler certaines gouttes pour favoriser la croissance justement des gouttes, des cristaux de glace par rapport aux gouttes. Il y a certaines opérations où on a simplement essayé d'utiliser l'énergie libérée lors de la congélation des gouttes. Donc on va essayer de congeler tout le maximum de gouttes pour essayer de récupérer cette énergie. Donc quand les gouttes se congèlent, ça libère de la chaleur. Si ça libère de la chaleur, ça réchauffe l'air. Si l'air est plus chaud, il va être plus léger, donc il risque de monter plus haut. Et s'il monte plus haut, ça va donner des nuages plus gros. Et on espère que les nuages plus gros donnent plus de pluie que les nuages plus petits, etc. Donc là, il y a eu pas mal d'opérations, Thaïlande, Texas, Floride, etc. D'autres opérations, bon, j'en ai déjà parlé, mais je ne vais pas insister à arroser les nuages. Et puis enfin, un certain nombre d'opérations en Inde, Thaïlande, Afrique du Sud, Mexique, où on utilise plutôt les poussières hygroscopiques. Alors, si maintenant on essaye de voir les résultats sur l'ensemble de ces opérations, je vais essayer de ne pas trop insister, mais globalement, si vous voulez, il est extrêmement difficile d'évaluer les résultats de ces opérations. Pourquoi ? Parce que lorsque vous voulez évaluer le résultat d'une opération que vous êtes en train de mener, si le résultat est très très fort, c'est très facile à voir. Si le résultat est relativement faible par rapport à la variabilité naturelle des phénomènes, hein, vous savez, vous regardez deux nuages identiques, il y en a un qui donne de la pluie, l'autre qui n'en donne pas, qu'est-ce qui fait la différence? C'est pas évident, il y a une variabilité naturelle des choses qui fait que c'est pas toujours évident quand... quand vous passez dans un nuage, vous mettez votre grain de sel et ce nuage donne de la pluie, est-ce qu'il n'en aurait pas donné si vous n'étiez pas passé? Est-ce qu'il en aurait donné plus? Est-ce qu'il en aurait donné moins? C'est pas du tout évident. Donc, à partir de là, on fonctionne un peu comme en médecine. C'est-à-dire en médecine, quand on veut évaluer un médicament, ce qu'on fait, c'est qu'on prend deux populations distinctes. Cette population, on leur donne un médicament, cela, on leur donne un placebo. Et on regarde au bout d'un certain temps quelle est la différence entre les deux populations. Alors si le lendemain, ceux qui ont pris le médicament sont tous morts, l'effet est évident, on ne se pose pas trop de questions. Mais si au bout d'une semaine, dans ceux qui ont pris le médicament, il y en a un qui a la colique, est-ce que c'est significatif ou pas? C'est pas évident. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que Dans tous ces tests, donc, qui sont forcément des tests statistiques, c'est très facile de mettre en évidence des effets forts, mais c'est très difficile de mettre en évidence des effets qui sont au niveau de la variabilité phénomène variabilité naturelle des phénomènes que vous étudiez. Donc en météo, sur l'augmentation de la pluie, on en est à peu près là. On en est au fait que on n'est pas capable vraiment de dire si il y a eu une modification. Ce qu'on sait, c'est que si modification il y a, elle n'est pas supérieure à une dizaine de pourcents. Pendant longtemps, on s'est basé sur les expériences israéliennes qui, au bout d'une trentaine d'années, ont montré que ils avaient à peu près 12% de plus de pluie quand ils avaient fait des ensemencements que quand ils n'avaient rien fait. Alors 12%, ça veut dire quand même qu'ils n'étaient pas capables de faire la pluie quand il n'y en avait pas. C'était juste peut-être capable d'augmenter un peu la pluie quand il y en avait déjà. Mais surtout, ces expériences, le résultat de ces expériences a par la suite été remis en cause. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout sûr que ces résultats soient valables. Si bien qu'on est dans une situation aujourd'hui où on est encore dans l'expectative, on se rend compte qu'il y a des tas de choses qu'on comprend encore assez mal. Et le seul espoir qu'on a sur l'augmentation de la pluie concerne l'impact sur les nuages orographiques, c'est-à-dire les nuages qui se forment au-dessus des montagnes. Donc les seules opérations aujourd'hui qui paraissent un peu sérieuses et qui présentent un espoir pour l'avenir sont des opérations qui sont menées sur les nuages qui se développent au-dessus des montagnes lorsque l'ALR arrive sur les montagnes, soulevé par les montagnes. Et là, on a des opérations qui continuent à se développer, mais sans qu'on soit encore capable de dire si on sera capable d'avoir des résultats par la suite. Alors, si on passe à la grêle maintenant, pour tenter de réduire les précipitations de grêle, le concept qui est généralement utilisé, c'est de dire si on arrive à augmenter, c'est de dire les grêlons sont peu nombreux, si bien que lorsqu'ils tombent, eh bien, ils provoquent des dégâts relativement importants. Si on arrivait à augmenter le nombre de grêlons, il serait beaucoup plus petit, chaque grêlon serait beaucoup plus petit, tomberait moins vite et aurait peut-être le temps de fondre avant d'atteindre le sol pour donner de la pluie plutôt que de la grêle. Donc la plupart des opérations de lutte anti-grêle, c'est de dire essayons d'augmenter le nombre de grêlons pour les mettre en concurrence dans le partage de l'eau disponible. Alors les premières méthodes qui avaient été développées, c'était en Union soviétique à l'époque, avec un certain concept de zone d'accumulation. En gros, les soviétiques disaient, bon, ben, c'est facile, les grêlons se forment dans la zone d'accumulation, là, qui est notée par le point 2, et donc c'est là que se trouvent toutes les grosses gouttes de liquide qui vont finir par se congeler. Donc attaquons cette zone pour congeler le maximum de gouttes. Donc les soviétiques, à l'époque, ben, mettaient toute l'artillerie là-dedans. Et ils décrétaient qu'ils avaient à peu près 90% de résultats. C'est-à-dire, globalement, ils disaient aujourd'hui, on a très très peu de grêle, c'est grâce à ces opérations, sinon on n'en aurait dit pas plus. Alors ça posait quelques problèmes aux États-Unis, parce que les agriculteurs américains ont commencé à se dire, quand ils ont su ça, ils ont dit, mais à quoi ça sert? Pourquoi sont pas nous des scientifiques, alors qu'on a toujours de la grêle qui détruit nos cultures? Donc ça pose un gros problème. Et à ce moment-là, eh bien, les Américains ont été obligés de développer leur propre programme. Et dans leur programme, donc, c'était un énorme programme auquel j'ai eu la chance d'assister à l'époque, dans lequel on a fait des opérations par tirage au sort. Bon, il y avait plein d'avions, de mesures, de radiosondages, des systèmes de collecte au sol, des modèles de simulation, etc. Et au bout d'un certain nombre d'années d'expérience, on s'est rendu compte que c'était un peu inquiétant, parce que bien que ce soit pas significatif statistiquement, on avait quand même eu plutôt un peu plus de mètres quand on avait fait quelque chose que quand on n'avait rien fait, et plutôt un peu moins de pluie dans une région qui était déjà un peu sèche quand même. Donc on a décidé qu'il valait mieux à ce moment-là arrêter et puis essayer de continuer un peu les études pour mieux comprendre les choses. Donc ça s'est plus ou moins arrêté là. Il y a eu pas mal de rapports qui ont été faits. Les résultats américains ont été contestés par les soviétiques parce que c'était fait sur des nuages américains avec des méthodes américaines, alors que les études soviétiques avaient été faites en Union soviétique sur des nuages soviétiques avec des méthodes soviétiques. Bon, mais c'était pas tout à fait faux. C'est pas tout à fait le même type de nuage, c'est pas tout à fait le même type d'approche, puisque les Américains sont lancés à partir d'avions, les Soviétiques tiraient dans les nuages. Les nuages américains, c'était sur les grandes, sur les hautes plaines du Colorado, donc avec un sol relativement haut, si bien qu'on atteignait très vite l'isotherme zéro où se forment les grêlons, alors qu'en Union soviétique, c'était des sols assez bas, avec des températures assez fortes, donc les grêlons se formaient beaucoup plus haut. Alors, quand on a ce genre de problème et qu'on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas d'accord? On fait appel à quelqu'un de neutre. On fait appel au CIS. Alors, on fait appel au CIS et donc là, on a un scientifique suisse, qui fait quelqu'un d'extraordinaire, que j'ai bien connu, qui va en Union soviétique, il suit des cours de modification du temps à l'école soviétique, il repart avec un diplôme soviétique, il invite les soviétiques à venir en Suisse, utiliser la méthode soviétique sur des nuages suisses. Donc là, on est... Et alors, c'est assez intéressant parce que le résultat au bout de 5 ans de la méthode soviétique en Suisse, c'est le même résultat à peu près que ce qu'on avait obtenu aux États-Unis. Donc, alors, quel résultat? Globalement, ce qu'on en a déduit, c'est que on était... Au bout de 5 ans, tout ce qu'on était capable de dire, c'est que s'il y avait une modification qui avait été apportée par les ensemencements, cette modification était inférieure à 30%, forcément. Sans qu'on sache si c'était 30%, 0% ou moins 30%. On était dans une fourchette de 30%. Peut-être qu'on avait réduit la grêle, peut-être qu'on l'avait augmenté, peut-être qu'on n'avait rien fait. Si on voulait avoir une précision plus importante, il ne fallait pas faire 5 ans d'opération, il fallait faire 20 ans ou 30 ans d'opération, il fallait faire 30 ans d'opération pour savoir si la fourchette elle était plus 5, moins 5, etc. Donc, quand on n'avait pas les moyens de mettre pendant 30 ans des moyens considérables pour tester une méthode qui n'était peut-être pas valable, les opérations se sont arrêtées là. En tout cas, ce qu'on a pu prouver, c'est que les 90% annoncés par les soviétiques n'étaient pas quelque chose de crédible. J'ai d'ailleurs eu l'occasion, dans le cadre de la coopération franco-soviétique à l'époque, d'aller en Union soviétique et de leur dire que je doutais de leur méthode d'évaluation. Ils ont été très fâchés, mais ils ont fini par me dire qu'ils étaient d'accord avec moi. Ils ne voulaient jamais se fâcher avec les représentants des autres pays. Alors, donc là, j'ai parlé de la grêle. Pour si maintenant on parle détourner les cyclones, il y a eu aussi pas mal d'opérations qui ont été menées, en particulier au départ aux États-Unis, pour essayer de modifier les cyclones. Alors des opérations assez importantes, sans furie. Bon, je vais essayer d'aller assez vite parce que je crois quand même que ça fait un moment que je parle. Bon, les cyclones tropicaux, vous savez que ça peut provoquer des dégâts absolument considérables, au sommet de Katrina, ce genre de choses. Donc, ce sont des phénomènes qui sont extrêmement violents. Et on s'était dit, à partir du moment où on s'est dit qu'on était capable de modifier les nuages, on s'était dit qu'on devait être capable de modifier ces cyclones tropicaux. Alors, en particulier, dans les cyclones tropicaux, vous avez le vent, enfin, vous avez les systèmes qui s'enroulent autour d'un œil. Et alors qu'au niveau de l'œil, tout est assez calme, autour de l'œil, le vent tourne très très vite. Et à l'époque, on s'est dit, ben, un peu, si vous voulez, à l'image du patineur qui peut réduire sa vitesse, le patineur qui tourne, qui réduit sa vitesse en écartant les bras et qui, au contraire, accélère en resserrant les bras, on s'est dit, ben, si on arrive à faire en sorte que les vents tournent plus loin du centre, eh bien, peut-être que les vents tourneront moins vite et seront moins forts. Donc, en gros, les opérations à l'époque, c'était de dire, alors si vous regardez l'image d'en haut, vous voyez des nuages très très développés près de l'œil, et on s'est dit, ben, si on ensemence les nuages qui se trouvent, les petits nuages qui se trouvent un peu plus loin de l'œil, et qu'on réussit à les faire grossir, on arriverait à l'image du bas, où les phénomènes les plus violents se trouvent plus loin de l'œil, et donc avec des vents qui tourneraient moins vite. Bon, il y a eu un foisonnement d'autres propositions récemment, par exemple essayer de faire précipiter plus rapidement les cyclones tropicaux, essayer d'absorber l'ensemble de l'eau des nuages. Alors là, il y a une opération qui avait été menée par une société qui s'appelle Dynomat Inc. Alors c'est une société de fabrique de couches pilotes. C'est une société qui fabrique un polymère qui est utilisé dans les couches absorbantes. Et ce polymère est capable d'absorber 1500 fois son poids d'eau. Donc en gros, on se dit, on va envoyer ça dans les nuages, ça va absorber 1500 fois le poids de l'eau des nuages, et puis ça va permettre de dissiper le nuage. Alors quand même, quand vous avez un cyclone tropical où il y a quelques millions de tonnes d'eau, même si ça fonctionnait, ça veut dire qu'il faudrait mettre quelques milliers de tonnes de polymères, quelques milliers de couches absorbantes. Alors vous imaginez de tonnes. Donc toute cette eau qui vient se dissoudre dans l'océan, etc. D'abord au niveau du coût, ensuite au niveau des effets secondaires, la pollution des océans, etc. C'est quelque chose qui paraît extravagant. Ensuite, d'autres opérations essayent de déstabiliser la machine thermique. En gros, qu'est-ce que c'est qu'un nuage? Qu'est-ce que c'est qu'un cyclone tropical? C'est une machine thermique avec la partie chaude en bas, la partie froide en haut. Et si on arrive à refroidir le bas ou à réchauffer le haut, eh bien, on va réduire la machine thermique. Hein, globalement, il y a des projets qui viseraient soit à limiter l'évaporation des océans en mettant, par exemple, de l'huile sur les océans. Vous savez que sur une surface d'eau, si vous mettez une couche d'huile, eh bien, ça limite l'évaporation. Mais l'océan, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement mouvant, et je doute que la pellicule d'huile soit maintenue très très longtemps. Il y a d'autres projets qui viseraient à réchauffer le sommet des nuages en mettant de la suie sur les nuages, en mettant des particules de carbone sur le haut des nuages. Les particules de carbone donc noires absorbant l'énergie solaire pourraient réchauffer le sommet des nuages et à ce moment-là limiter la différence de température entre le bas et le haut. Alors, si vous voulez, ce type d'opération qui a été... les dernières là, que je mentionne, à part celui des couches culottes là, qui a été, où il y a eu un essai, effectivement, les autres n'ont jamais été vraiment mis en pratique. Les ensemencements dont j'avais parlé au début... les ensemencements dont j'avais parlé au début pour essayer d'écarter l'œil ont effectivement eu lieu dans les années 60-70. Alors, le problème qui s'est posé, c'est qu'un jour où il y avait une opération, donc il y avait un avion qui était en train d'ensemencer un cyclone tropical, le cyclone tropical a changé de trajectoire. Vraisemblablement pas à cause de l'ensemencement, mais parce que les cyclones tropicaux ne se propagent pas forcément en ligne droite. Mais le cyclone tropical a changé de trajectoire, et alors qu'il devait se diriger sur l'océan, il est allé se fracasser sur les terres. Donc, je ne sais pas si vous voyez la responsabilité que peut risquer d'assumer un groupe qui fait ce type d'opération si modifier la trajectoire d'un cyclone tropical et que vous faites en sorte qu'il y a des dizaines, voire des centaines de morts, parce que peut-être à cause de vous, peut-être pas à cause de vous, mais en tout cas il y a un doute. Donc ce type d'opération en fait s'est arrêté il y a déjà pas mal de temps. Alors comme je crois que j'ai dépassé mon temps, Comme l'a dit tout à l'heure Olivier, je ne vais pas aborder les problèmes de géo-ingénierie qui sont les problèmes donc de modification du climat, problème que je traite en partie dans ce livre. Là, je vous ai parlé surtout de problèmes de modification du temps à une petite échelle, comment modification des nuages, des cyclones, de la pluie, de la grêle, etc. La modification à l'échelle du climat, c'est une autre approche extrêmement intéressante. Ça fera certainement l'occasion, je l'espère, d'une autre conférence, peut-être par Jean-Claude André, qui doit être dans la salle. Alors, pour faire le bilan donc, sur les opérations dont je vous ai parlé, en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu de nombreuses opérations qui ont été menées, depuis très très longtemps, hein, puisque moi je vous ai parlé de l'Antiquité avec les tirs des flèches, etc. Mais disons que les opérations plus sérieuses, quelquefois un peu plus scientifiques, depuis 1946, il y en a eu énormément. Alors, quand je dis un peu plus scientifique, il y a quand même beaucoup trop de... Mener des opérations scientifiques, c'est compliqué parce qu'il faut faire des tas de mesures dans les nuages, tout ça, c'est pas facile. Donc, il y a beaucoup trop d'opérations qui ne sont pas réellement scientifiques et qui n'apportent pas vraiment d'informations utilisables. Les effets qu'on a pu observer aujourd'hui sont difficiles à évaluer, mais c'est toujours des effets qui sont assez limités. On se rend compte qu'on a encore une compréhension qui est encore insuffisante des mécanismes en jeu. Et si on parle d'avenir de la modification artificielle du temps, dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, les brouillards, on sait plus ou moins faire, mais disons que c'est relativement cher et ça présente assez peu d'intérêt aujourd'hui vu le coût. La pluie, on a quelques espoirs sur les nuages orographiques, mais le problème n'est pas encore réglé, mais il y a encore un certain nombre d'opérations qui sont menées, et donc dans certaines sont des opérations scientifiques. La grêle, tous les résultats qu'on voit aujourd'hui, il n'y a rien qui permet de prouver qu'on est capable de modifier, de dissiper, d'empêcher la grêle de tomber, hein, de réduire la grêle. Toutes les opérations qu'on a pu voir, on se rend compte, si vous voulez, que la grêle se produit dans des nuages tellement importants. Enfin, je vous ai parlé de ces cumulonimbus où la puissance était 200 fois la puissance de l'ensemble des centrales, des centrales qui se trouvent en France. C'est des nuages qui sont absolument trop violents, dans lesquels il se passe énormément de choses, et on ne pense pas aujourd'hui, on ne voit pas par quelle méthode on serait capable vraiment de les modifier. Et puis les cyclones tropicaux, bon, c'est un peu la même chose, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est extrêmement violent, c'est sur de grandes distances, et si on était capable de faire un tout petit truc là-dedans, peut-être que ça risquerait d'être grave si on risquait de les détourner et de les faire atteindre des cibles qui ne sont pas forcément souhaitées. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre attention. Je suis prêt à répondre à vos questions.
Merci beaucoup. Donc, la parole est à la salle.